tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Mais par contre, il y a un truc qui ne change pas et c'est bien ça qui est dramatique. C'est que t'accouches à l'hôpital américain de Neuilly ou que t'accouches dans une maternité, voilà, dans un environnement social un peu plus difficile, il y a toujours aussi peu d'informations. Et les femmes arrivent toujours dans la salle d'accouchement sans savoir exactement ce qui va se passer et encore moins ce qui se passera après quand elles rentreront chez elles. Donc ça, la désinformation n'a aucune frontière.
Avant de vous parler de mon invité de la semaine, encore une fois, un grand, grand merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Merci également pour vos messages, vos encouragements et vos partages au sein de vos communautés, c'est très, très précieux. N'hésitez surtout donc pas à continuer de le faire, car je vous l'ai toujours dit et je le répète, ce podcast, vous en êtes l'éco-créateur et l'éco-créatrice. Cette semaine, je vous propose une conversation avec une femme absolument exceptionnelle. Dans tous les sens du terme. Elle a une énergie absolument dingue et surtout, son action a un impact positif sur de nombreuses familles. Elle est la créatrice du podcast Bliss Stories. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le podcast décomplexé sur la grossesse et l'accouchement. Depuis son lancement il y a un peu plus d'un an et demi, elle avoisine les 5 millions d'auditeurs. Son succès est absolument dingue, mais après avoir passé plus d'une heure et demie avec elle, je peux vous garantir qu'elle n'a pas volé son succès, mais qu'elle le mérite amplement. J'ai fait une très belle rencontre et je suis vraiment heureuse de la partager avec vous, parce qu'en sortant de cet entretien, eh bien j'avais le sourire et ce que j'aime le plus, l'espoir. Elle a décidé depuis peu de se consacrer uniquement à Bliss Stories, et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à la rencontrer maintenant que son podcast est au centre de sa vie. Avec Clémentine, nous avons abordé les débuts de Bliss, l'industrie du podcast, son rythme de vie maman-entrepreneuse, le fait de se sentir utile, les violences obstétricales, la désinformation autour de la maternité, les nouvelles formes de parentalité, ses coups de cœur et son non-coup de gueule. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à la lumineuse Clémentine Gallet. Clémentine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Mais je t'en prie, je suis ravie de te rencontrer.
Moi aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Et je vais te demander si ça ne t'embête pas de te présenter autant personnellement que professionnellement.
Ok, je suis donc Clémentine Gallet. Je suis une Parisienne, maman de deux enfants, en couple depuis de nombreuses années avec leur papa. Voilà, et professionnellement, je suis... podcasteuse depuis peu. Avant, j'étais dans les médias, en cinéma, en télé, pendant 15 ans. Et voilà. Et depuis 3 mois, j'ai décidé de me consacrer pleinement à cette nouvelle activité de podcast que j'ai lancée il y a un an et demi à peu près, un peu plus d'un an et demi, ouais.
Alors justement, on va parler de ton podcast, si ça ne t'embête pas.
Bien sûr.
Tu as vécu un succès juste hallucinant. Moi qui connais un tout petit peu la communauté de podcasteurs, forcément, c'est ce qu'on disait avant d'appuyer sur le bouton on, ça montre qu'il y avait un vrai besoin.
Absolument.
Et ça a été un peu le déclic pour toi, pour le lancer.
Oui, enfin ce besoin, moi je l'ai identifié de manière très confidentielle, si tu veux. J'ai pas fait une étude de marché pour voir si c'était dans l'air du temps. Il se trouve que moi, ça a correspondu à un besoin qui était très personnel, parce que j'avais envie de libérer la parole sur ces sujets. Et il se trouve que de personnel, c'est passé à collectif, tu vois.
Plus que collectif.
Mais c'était absolument... inattendu et évidemment c'est une très belle surprise.
Alors on peut peut-être le dire, c'est un podcast qui laisse la parole aux mamans sans phare et sans aucun détour, à savoir la parole est la plus libérée possible. L'impulsion de départ, effectivement, je crois que c'était une envie parce que tu t'es dit ça n'existe pas. Tu as fait une recherche assez rapide en te disant il n'y a pas de podcast là-dessus.
Ah oui, ça a été très très rapide. Voilà.
Mais du coup, quel est le fil rouge que tu arrives à tracer, puisque maintenant ça fait un an et demi, ouais. C'est ça ? Est-ce qu'il y a un fil rouge qui ressort pour toi ou plusieurs ? Après avoir écouté toutes ces femmes, parce que tu as fait plus de...
60 épisodes. Oui, il y a le 61e qui est sorti ce matin.
Ouais.
Écoute, je pense que le fil rouge, c'est vraiment l'humain. L'humain et tout ce qu'il comporte comme... éventail d'émotions les plus profondes et les plus pures. Enfin, moi, c'est ce que je vais chercher. Donc, moi, je vais à la rencontre d'histoires, de trajectoires de femmes, de questionnements, de doutes, de galères, de bonheur aussi, hein, heureusement. Mais moi, je suis vraiment, depuis le début, guidée par ça. C'est me nourrir et nourrir du coup ces milliers d'auditrices, ces millions d'auditrices avec des parcours de vie qui sont pas forcément racontés habituellement, voilà, auxquels on n'a pas accès. Ça peut être même des histoires très simples, mais même dans la simplicité, il y a de la complexité et il y a des émotions. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui me porte depuis le début et je pense que c'est ce qui transpire,
ce qu'on ressent
dans mes interviews.
Sur les 61, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont particulièrement touché ? Je pense qu'il y en a qui t'ont même, à mon avis, fait sortir les larmes. Enfin,
bouleversé.
Je pense que bouleversé. Ouais.
Bah moi, je suis. Ça peut être une qualité comme un défaut, mais moi, je suis dans l'empathie absolue. Donc, c'est vrai que quand je me branche, quand je me connecte dans les yeux et dans le cœur de mon invité, je suis. C'est vraiment connecté, quoi. Le mot, c'est vraiment ça. Donc. Je découvre son histoire en même temps qu'elle me la raconte. D'ailleurs, mes interviews sont très peu préparées et c'est fait exprès justement pour que je sois moi-même, que je sois au même niveau en fait que l'auditrice et que je sois cueillie, choquée, surprise, attendrie de la même façon que une auditrice va l'être. Donc, c'est vrai que. Comme c'est un sujet où ces femmes me racontent le moment le plus marquant de leur vie en général, puisque qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de mettre au monde un enfant, honnêtement, moi j'ai jamais connu plus fort, et c'est ce que toute mère te dira. Quand tu touches à ces moments-là, évidemment, tu bascules très vite dans l'émotion, évidemment. Parce qu'elle, c'est comme une séance d'hypnose, si tu veux, elle revive le moment. Tu te souviens minute par minute de ta grossesse et surtout de ton accouchement. Tu peux, 10 ans après, le raconter, tu es capable de dérouler vraiment heure par heure ce qui s'est passé, je te dis, voire minute par minute. Donc évidemment, c'est très fort à chaque fois. Et moi, c'est vrai que je suis assez émotive et dans une grande empathie. Oui, c'est vrai que les larmes montent très souvent. Après, ça peut être des larmes de grande tristesse comme des larmes de joie. Dans tous les cas, c'est toujours très fort. Et oui, bien sûr, pour répondre à ta question, il y a des épisodes beaucoup plus difficile à recevoir que d'autres. Parce que c'est des histoires très dures, même si elles se terminent bien, tu replonges dans des souvenirs très douloureux, voire vraiment des choses qu'on ne souhaite à personne. Et pourtant, ces femmes, elles sont en face de moi, elles replongent dans leurs souvenirs. Et c'est pas un supplice que de replonger dans ses souvenirs. C'est au contraire, c'est thérapeutique. C'est dans une idée de transmission pour ces autres femmes qui les écoutent et pour que ces autres femmes se sentent soutenues si elles vivent la même chose ou puissent anticiper ou puissent être informées, quoi, tout simplement. Donc c'est ça qui est beau, c'est que même si elles pleurent, elles vont au bout de leur histoire parce qu'il y a vraiment une urgence de transmettre. Et ça, c'est très fort.
Comment tu les sélectionnes ?
Ah, vaste question. Ouais. Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Alors, je les sélectionne, c'est très variable. Honnêtement, il n'y a pas de recette. J'ai pas de mécanisme, de dispositif très précis. Mm-hmm. En gros, soit c'est des témoignages spontanés. Mm-hmm. J'en reçois quotidiennement, énormément. C'est d'ailleurs très difficile de...
À gérer.
Ah bah ouais.
Parce que tu dois...
Ah bah,
tu
je dois... suis ouais, tu submergée peux pas de messages. Donc là, je travaille avec quelqu'un.
Qui t'aide dans la lecture.
Voilà, j'ai pu embaucher quelqu'un là, qui travaille avec moi, qui est génial et qui m'aide justement... Enfin, elle m'aide sur plein de choses, mais notamment sur le traitement des mails. Et donc évidemment il y a des histoires incroyables qui arrivent spontanément et puis sinon c'est des femmes voilà dont j'ai
entendu parler
que j'ai découvert sur Instagram dont l'histoire m'interpelle et que je, du coup que je contacte moi-même.
D'accord. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on accouche ou qu'on vit sa maternité de la même manière à Paris intramuros ou en banlieue, ou en province, ou...
Évidemment pas. Évidemment pas, mais j'ai envie de te dire que ce qui change, c'est peut-être, oui, le degré de confort, de bienveillance, peut-être de dialogue. Mais par contre, il y a un truc qui change pas, et c'est bien ça qui est dramatique, c'est que t'accouches à l'hôpital américain de Neuilly ou que t'accouches dans une maternité, voilà, dans un environnement social un peu plus difficile. Il y a toujours aussi peu d'informations et les femmes arrivent toujours dans la salle d'accouchement sans savoir exactement ce qui va se passer et encore moins ce qui se passera après quand elles rentreront chez elles. Donc ça, la désinformation n'a aucune frontière. Et ça, c'est... Et ni la désinformation, ni les violences obstétricales, ni la violence que peut procurer un baby blues ou une dépression postpartum. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, que t'habites dans le 16e ou...
Bien sûr.
Ou au Muro, c'est pareil. Alors après, t'as peut-être plus d'outils pour accéder, je sais pas, à des psys ou à un environnement confortable, évidemment, dans Paris intramuros, dans des quartiers chics. Mais il y a autant de souffrance et d'isolement
bien sûr,
partout.
Bien sûr.
Je pense.
Voilà, si t'avais deux, trois combats ou deux, trois... peut-être pas combats, le terme est peut-être un peu fort, mais deux, trois thématiques où tu te dis, bon, là, il faut faire quelque chose et il faut que, entre guillemets, les institutions ou que... Je sais pas, enfin, il faut que les choses changent à ce niveau-là. Donc, on a dit la désinformation, les violences obstétricales.
Obstétricales, ouais, ouais.
Mais est-ce que tu vois d'autres choses se profiler ?
Oh bah, de manière très... très basique, j'ai envie de te dire, puisque c'est vraiment dans l'air du temps, mais sur les nouvelles parentalités, oui. Sur tout ce qui tourne autour de la PMA, de la GPA, de l'adoption du deuxième parent dans les couples homosexuels. Ça, c'est vraiment... moi, c'est des sujets que je connaissais, mais de manière assez superficielle. Et en rentrant vraiment dans l'intimité de ces couples homosexuels, c'est vrai que... c'est hyper violent. Enfin, tu vois, il y a vraiment des montagnes à gravir et même si, malgré tout, ils réussissent hein, à faire leurs enfants à l'étranger, ils se démerdent hein, parce que, de toute façon, quand l'envie d'être parent est plus forte que tout, bah, tu déplaces des montagnes. Mais le retour en France, au retour en France, ils se retrouvent voilà, à se heurter à des blocages institutionnels qui sont encore vraiment très archaïques par rapport à d'autres pays.
Et qui mettront du temps, à mon avis, à se lever.
Qui mettront du temps, ouais, bon, alors là, il y a eu quelques avancées dernièrement, mais c'est pas encore ça. Et puis surtout, ce qui serait formidable, c'est que tout ça puisse être faisable en France, enfin, tu vois, tout simplement.
Bien sûr.
Ouais. Mais bon, écoute, on garde espoir, hein. En tout cas, moi, je continuerai de donner la parole à ces parents-là parce que je trouve ça trop important. Tu vois, là, l'épisode de ce matin, typiquement, c'est une maman et deux papas. Donc voilà, c'est une femme de 38-39 ans qui est célibataire, qui a toujours pas d'enfant et qui veut un enfant coûte que coûte, mais avec un papa. Bon, elle rencontre un couple gay qui a aussi les mêmes envies et ils font un bébé à trois. Donc c'est vrai que comme ça, sur le papier, tu te dis, non mais attends, ça peut pas marcher, c'est de la folie, les repères de cet enfant et tout. Bon, il y a plein de gens qui vont penser ça. Et puis en fait, si tu ouvres un peu tes chakras et que surtout tu les écoutes...
Tu dis qu'un enfant, il a juste besoin d'amour.
Bien sûr, un enfant, il a juste besoin d'amour. Et si ils font ça en bonne intelligence, évidemment que ça fonctionne. Mais ce genre de dispositif n'est pas légal en France.
Oui, bien sûr.
Donc,
c'est pas accepté non plus, on va dire, en termes d'idéologie. Enfin,
bien
peut-être
sûr.
Pas d'idéologie, mais socialement, c'est difficile
à
porter.
Ouais. Forcément. Donc voilà, moi c'est vrai que c'est mon combat de donner la parole à tous ces nouveaux parents avec ces nouveaux modèles familiaux qui, je pense, existent depuis longtemps tout le monde s'est toujours débrouillé pour faire à sa sauce et tant mieux. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils sont plus visibles et tant mieux.
Est-ce que t'as déjà pensé à interviewer les hommes sur la maternité?
Ouais, bien sûr, ouais. J'ai fait un épisode avec un papa. C'est le seul que j'ai vraiment consacré à un homme. Après, j'ai eu un couple gay.
Ça, j'ai vu, ouais.
Et j'ai eu un couple hétéro, mais où
ça aussi,
le papa
j'ai vu.
A pas mal parlé aussi, a donné son point de vue. Je le fais, voilà, occasionnellement. Après, c'est vrai que les femmes sont mes sujets de prédilection. Mais je suis toujours très touchée quand je reçois des messages de papas qui m'écoutent, qui ont découvert le podcast avec leur femme et qui me remercient et qui me disent, franchement, ça m'aide à mieux comprendre et c'est hyper intéressant et j'ai compris ça. Et je me dis, cool, c'est bien, ça arrive jusqu'aux oreilles masculines, c'est top.
Alors, aujourd'hui, tu vis un immense succès avec ton podcast. Comment tu as géré ça? C'est-à-dire, est-ce que tu... D'abord, je pense que tu t'y attendais peut-être pas.
Pas du tout.
Pas de cette proportion-là. comment tu le gères et quelles opportunités ça t'a permis d'avoir, tout simplement?
Alors, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai fait quand même cette activité pendant très longtemps en parallèle métier
qui était directrice
principal,
de casting.
J'étais directrice des castings chez TF1 Prod. Je faisais ça depuis 6 ans. C'était génial. J'adorais les équipes avec qui je travaillais. J'adorais ce métier. Bon, mais c'est vrai que je commençais à me dire que j'en avais peut-être un peu fait le tour, quoi, et que j'irais bien explorer d'autres territoires et des territoires plus personnels. C'est vrai qu'en découvrant aussi les podcasts, je me suis beaucoup nourrie de parcours d'entrepreneurs et ça, ça a mûri au fil des années, des mois. Et c'est vrai que quand Bliss a commencé vraiment à décoller, je me suis dit, c'est vrai que toutes ces audiences qui ne cessent de croître, peut-être que je peux en faire quelque chose, en fait. Peut-être que je peux allier, le plaisir de faire ce podcast à une vraie activité professionnelle. Donc, j'y suis allée prudemment parce que, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas tout quitter du jour au lendemain. Et puis, le podcast était... très peu connu en France il y a 2 ans. Moi, quand j'ai démarré, personne ne savait ce que c'était qu'un podcast. Aujourd'hui, ça paraît fou parce que ça a été très, très vite. Mais en vrai, il y a 2 ans, on me faisait répéter le mot 10 fois. Quoi. Genre, excuse-moi, c'est quoi
podcast.
Un podcast. Ah oui, c'est quoi? C'est un blog c'est une chaîne YouTube.
Ouais.
Non, toujours pas.
On peut le regarder
mais
où, ton podcast?
Du coup, on le regarde où? C'est ça. Non, alors ça ne se regarde pas puisque ça s'écoute. Ah, d'accord. Mais c'est de la radio. C'est de la radio, c'est comme de la radio. Non plus. Je vais t'expliquer. Donc il y a eu toute une éducation en fait que tu as dû donc connaître aussi sur ce que c'est qu'un podcast et tout. Donc moi c'est vrai que quand j'ai démarré ça, je pensais pas que ça irait aussi vite. Je connaissais le succès des podcasts à l'étranger, donc évidemment, t'as ce modèle quand même anglo-saxon où tu te dis bon, avec un peu de bol, on est toujours un peu à la bourre en France, mais ça va, on va y arriver. En combien de temps, je ne savais pas, mais oui, j'espérais bien que ça exploserait. Et puis très vite, il y a eu quand même la première édition du Paris Podcast Festival. En 2018, où pour moi ça a été très fort parce que bon, d'abord j'ai été nommée, donc j'étais super fière. Et puis en plus, j'ai rencontré tous ces acteurs du podcast en France et je me suis dit ah ouais, ok, je suis pas toute seule, on est quand même une sacrée bande. Donc à nous tous, on va peut-être effectivement inventer une nouvelle industrie. Mais il y avait tout à inventer. Il y avait vraiment, c'est ça qui était et qui est toujours formidable, c'est qu'en fait on essuie les plâtres, certes, mais à la fois on fixe aussi nos règles et on écrit tu vois un peu un nouveau système quoi de fonctionnement, de business. Donc tout ça, moi ça m'a j'étais vraiment au démarrage de ça avec toute une bande de podcasteurs voilà, où on était vraiment dans la même, les mêmes envies, les mêmes ambitions, entre guillemets. Parce que, et c'est, pour moi, c'est pas un gros mot d'avoir de l'ambition.
Non, bien sûr.
C'est, voilà, quand tu portes comme ça un nouveau média, c'est génial d'en avoir de l'ambition pour le porter le plus haut possible. Donc voilà, ça s'est fait très progressivement, même si moi, c'est vrai que mes audiences ont été très vite très importantes. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à avoir des annonceurs qui se sont intéressés à la publicité sur mon podcast.
À partir de quand environ ? Enfin, tu l'as senti arriver quand ?
Bah, ça a démarré justement autour du Paris Podcast Festival, donc fin 2018, début 2019. Ça fait un an, en gros, que je commence à que je monétise. Avec évidemment une certaine irrégularité. Je te dis pas que j'ai du sponsoring à bloc sur tous mes épisodes, loin de là.
C'est ça, c'est-à-dire que mais parce que les gens essayent de s'intéresser au modèle économique du podcast. Moi, je reçois beaucoup de questions de voilà, ils se disent mais comment ça fait pour gagner de l'argent ce truc comment on... Et donc toi, t'as pris l'option du sponsoring en host read, c'est-à-dire que tu lis un message en amont de ton épisode.
Ouais. Je l'écris même.
C'est moi qui l'écris.
Ouais, d'accord. Ouais. C'est moi qui l'écris. En fait, la marque
te
me contacte. Dit, bah voilà, on aimerait communiquer sur notre marque ou plus précisément autour de ce produit de notre marque. Moi, je leur dis oui ou non parce que je n'accepte pas non plus n'importe quelle campagne. Il faut quand même que ça parle à ma communauté et ça parle à mes auditrices. Moi, si ça me parle, ok, fine, on y va. Donc, eux, ils m'envoient, si tu veux, une espèce de wording, de pitch de ce dont ils veulent parler. Et moi, je l'écris avec mes mots, avec mon ton, voilà.
Ok.
Et je le lis, effectivement, j'enregistre un message que je mets au début de mes épisodes, en fait.
Alors, tu ne réponds absolument pas si tu n'as pas envie de répondre, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une manière pour toi de subvenir à tes besoins ? Techniquement parlant, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui équivaut à ton salaire ou tu te dis, bah, je peux en vivre ?
Oui, je peux en vivre à peu près. Après, si tu veux, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a aucune visibilité. C'est-à-dire que là, actuellement, oui, j'ai du sponsoring, c'est cool.
Sur combien d'épisodes, en fait, ils te disent OK, bingo, sur 10 épisodes, un an, 6 mois ?
En fait, ils achètent un nombre d'écoutes.
D'accord.
Un nombre d'écoutes correspond à un certain montant.
D'accord.
Et ce montant est fixé par rapport à ce qu'on appelle un CPM, voilà, ouais. Un coût par mille.
Ouais.
Donc après, chaque podcast fixe son coût par mille selon ses audiences, sa notoriété, selon ce qu'il considère.
Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que chacun. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout étant à déterminer. Il y a une forme de liberté, je trouve, dans la recherche de modèles économiques sur le podcast qui est quand même très intéressante. Tout est en plein... je pense que ça va se charter un peu et que ça va s'organiser là dans les six mois, un an à venir. Ouais.
On y travaille en tout cas. Parce qu'en fait, les podcasteurs qui commencent un peu à avoir... une petite notoriété et surtout de l'intérêt des marques, on essaye de se parler au maximum pour justement qu'il y ait une homogénéité.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et des réponses qu'on peut donner aux marques pour justement qu'on se tire tous vers le haut, quoi.
Bien sûr. Je suis toujours surprise de voir les succès des podcasts et de podcasts qui répondent à des besoins très spécifiques. Tout comme toi, j'ai aussi interviewé une jeune femme qui avait créé un compte Instagram sur les règles, qui a cartonné, etc. Bon, du coup, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a certainement un manque ou peut-être une défaillance de la part des médias. Et toi, enfin des médias au sens large, attention, hein, je parle pas uniquement de la télé ou de la radio. Voilà. Médias, quand je dis médias, c'est au sens large. Toi qui as travaillé dans les médias, quel regard tu portes aujourd'hui, tu vois, sur cet environnement, tout simplement? T'as un avis sur la question ou pas?
Bah, écoute, moi, quand j'ai choisi mon sujet de podcast, j'ai fait exprès de choisir un sujet de niche.
D'accord.
Parce que j'aurais pu faire un podcast sur la maternité en général ou sur la parentalité de manière un peu plus globale. Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui justement, c'est des sujets qui sont creusés, où on va vraiment au bout des choses et où on a le temps de se poser pour décortiquer vraiment tous les détails qui touchent à un sujet. Donc moi au début, d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit « Non mais t'es sûre, c'est trop précis en fait, la grossesse et l'accouchement, tu vas tourner en rond ». Et moi, je restais persuadée que non, que justement, c'était bien ça que moi, j'avais envie de traiter et que c'était là-dessus précisément qu'il y avait un manque d'informations. Parce que dans les médias plus généralistes, évidemment, on traite d'ailleurs très bien de la maternité, de la parentalité. Moi, j'adore les maternelles qui font un boulot incroyable sur tous ces sujets. Mais de fait... ils ne peuvent pas aborder des histoires dans leur longueur, ou ils ne peuvent pas décortiquer des émotions trop difficiles à mettre en image. Et puis voilà, tu ne peux pas dire à la télévision, sur le service public ou autre, la même chose que sur un podcast.
Où la parole est libre.
Où la parole est libre et où t'as pas l'image. Parce que mine de rien, même si moi, mes invités ne sont pas anonymes puisqu'elles témoignent à visage et à nom découvert. Mais quand même, il y a le filtre de l'image, en fait. Et ça, mine de rien, c'est quand même... Ça change tout. Et puis, il se passe plein de choses par la voix aussi qui ne passent pas ni par le texte, ni par la vidéo. Donc, après, moi, franchement, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout ça est très complémentaire. Et c'est ce qui est bien, c'est quand il y a des passerelles, tu vois, entre nous tous. Tu vois, moi, au tout début, Agathe Le Caron et Benjamin Muller, donc des maternelles, m'ont invité en plateau pour parler de Bliss. J'ai trouvé ça génial, tu vois, qu'ils aient cette spontanéité tout de suite, parce que c'était vraiment dans les premiers mois de Bliss. Et ils ont eu cette curiosité et ils ont eu cette volonté de m'inviter, de me donner la parole. Et franchement, je les en remercie, parce que c'est faire preuve d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité face à ces nouveaux médias et cette autre façon de parler des mêmes sujets, mais juste différemment, quoi.
C'est sûr. Tu te sens comment, en fait, toi, naturellement, puisque j'ai cru voir dans une interview ou l'entendre, je sais plus, pardonne-moi si je fais une erreur, mais il y avait un facteur d'utilité quand même au départ. Comment on se sent quand on est très très utile?
Ah bah franchement, je me suis jamais
sentie aussi
bien.
Par rapport à ton parcours d'avant, tu vois. Non, ouais. Pas, je critique pas, hein, attention, hein, mais c'est vrai que l'image étant ce qu'elle est, les médias étant ce qu'ils sont, le fait de travailler pour l'image, c'est quand même quelque chose de très particulier, pour l'avoir un tout petit peu vécu.
Ouais.
Comment tu te sens, tout simplement, tu vois?
Je me sens à ma place, en fait. Voilà, je ne me suis jamais sentie autant à ma place qu'en ce moment. Parce que, effectivement, comme tu le dis... On me renvoie très très souvent et de plus en plus cette phrase très forte, franchement, où on me dit mais votre podcast est d'utilité publique.
Bah oui. Mais je le pense aussi. Hein, c'est pour ça que je
te remercie. mais c'est vrai que c'est fou de recevoir ça. Franchement, j'ai énormément de retours, de remerciements, de je reçois des messages incroyables. Non, mais au-delà de touchant, je te jure, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai que dans les heures les plus comment dire, dense ouais. et intense ouais. de ce changement de vie professionnelle, parce que ça n'a pas été évidemment de tout repos, eh bien, ces shoots d'encouragement et d'amour et de bienveillance m'ont porté et me portent toujours. Parce que quand on te dit que tu fais un truc d'utilité publique, bah, t'as pas d'autre choix que de continuer, en fait. Et de garder le niveau d'exigence de tes auditrices. Parce que. Parce que, voilà, il y a un moment, et c'est tout à leur honneur. Et franchement, j'adore ça d'ailleurs parce qu'elles me challenge. Tu vois, il y a un truc aussi de. Quand t'as raconté certaines histoires et quand t'as atteint un certain niveau de témoignages et d'émotions et de. Et de libération de la parole, justement, faut s'y tenir, quoi. Et ça, c'est.
C'est vrai.
C'est challengeant et moi ça me booste hein, parce que j'ai besoin de ça vu que je suis toute seule maintenant j'ai aussi besoin d'être portée par une vraie motivation quoi tu vois et c'est vrai que quand je reçois à chaque fois tous ces messages à chaque épisode provenant d'univers complètement différents parce qu'évidemment chaque femme en touche certaines et du coup à chaque fois j'ai aussi des nouvelles auditrices et des enfin c'est tu parlais de sororité tout à l'heure, c'est vrai que non, d'ailleurs t'en parlais en off. Pardon. Oui. Alors, c'est pas que j'ai dit ça.
C'est pas grave.
Non, c'est vrai que le mot sororité revient souvent et qu'il est il a jamais été autant employé qu'en ce moment, mais j'avoue que c'est un terme très puissant et qui s'adresse, enfin en tout cas qui est totalement adapté à l'aventure que je vis avec ce podcast. C'est-à-dire qu'on est comme une armée de guerrières. Moi, je les appelle mon armée de guerrières parce que je trouve que c'est des femmes tellement fortes et tellement tellement dignes, même dans leurs failles les plus profondes que c'est tout ça c'est ça me porte évidemment donc je me sens merveilleusement bien ça me fait énormément plaisir d'aider parce que tout simplement ça aide ça aide quand t'as des messages de remerciement tu dis ok bon cette nana là je l'ai aidée cette nana là elle avait pas la réponse à ses angoisses à ses questionnements et grâce au témoignage de telle ou telle femme elle a trouvé des réponses cette fille elle osait pas arrêter la pilule ça l'angoissait de devenir maman et en écoutant les témoignages elle a arrêté la pilule elle est enceinte de 4 mois enfin tu vois il y a des trucs où même de me rendre compte de l'impact de ces témoignages dans la vie des femmes, je te jure, parfois c'est vertigineux. L'autre jour, il y a eu une espèce de d'enchaînement de messages de nanas qui m'annonçaient leur grossesse grâce au témoignage. En me disant, je ne sais pas par quel miracle je suis tombée enceinte alors que j'essayais depuis longtemps, mais je sais pas, ça m'a aidée.
Ça m'a débloquée.
Ouais. Ou bien, j'en avais pas spécialement envie. Et puis, en fait, en écoutant tous ces phases, je me suis dit qu'il n'y avait pas de bon moment. Et puis que, yalla, on y va. Et puis, parce qu'en fait, maintenant, comme le podcast existe depuis un an et demi, j'ai des auditrices qui m'ont écouté.
Qui te suivent depuis le début.
Qui me suivent depuis le début. Donc, qui ont eu le temps de mûrir un projet d'enfant, de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Donc, c'est dément.
T'as suivi
parce
tout
que
le
du
site.
Coup, il y a des bébés bliss. C'est trop marrant, quoi.
Des bébés bliss.
Et franchement, ça, c'est merveilleux. Enfin, à chaque fois que je reçois ce genre de message, ça me fait tellement plaisir.
Moi, je t'écoute, en fait, depuis pas très longtemps. Parce que j'ai pas d'enfant. Donc, je t'ai écouté parce que j'ai de l'admiration pour ce que tu fais et je voulais absolument savoir ce qui était à la source de ce succès affolant. Non, j'ai écouté un épisode qui m'a beaucoup touchée, c'est celui avec Fiona Schmidt qui parle justement des femmes nulle part, en tout cas qui ne veulent pas d'enfants. Donc bravo parce que c'était courageux, enfin pas courageux, mais je trouve ça bien aussi que tu l'aies fait parler. Si demain tu devais convaincre une femme, ou en tout cas, même si on a compris que c'était un choix personnel, si demain tu devais me convaincre ou convaincre une femme d'avoir des enfants, tu dirais quoi?
Alors déjà, question piège. Non mais déjà, moi je ne convaincrais personne s'il y a une profonde conviction de ne pas être maman. Mm-hmm. Par exemple, une Fiona Schmidt, j'essaierai jamais de la convaincre.
Bien sûr.
Parce que elle m'a déjà convaincue que c'était pas pour elle. Par contre, si je sens une hésitation ou du stress ou des angoisses qui ne sont pas placées au bon endroit, selon moi, évidemment que j'essaierai de parler
de ton expérience à toi, peut-être
de mon expérience à moi, pas forcément, mais en tout cas d'essayer de lui faire comprendre à quel point c'est touché du doigt, enfin à quel point devenir maman, connaître l'expérience d'une grossesse et d'un accouchement, c'est touché du doigt j'allais dire l'éternité, mais il y a un truc de, il y a un truc transcendant comme ça en fait, dans le fait de donner la vie, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est un processus qui est si on peut avoir la chance de le vivre, hein, qui vraiment mérite d'être vécu. Mais même dans ces heures les plus dark, hein, parce que y a des maternités pas marrantes, il y a des grossesses vraiment reloues, il y a des postpartum super angoissants. Mais malgré tout ça, le but, enfin moi j'essaierai jamais, comme tu peux t'imaginer, d'édulcorer la maternité. Mais malgré tous les témoignages que j'entends et malgré tout ce que je reçois comme témoignage, je reste convaincue que c'est la plus belle expérience que peut vivre une femme. Enfin franchement. Ce qui se passe quand tu sors ton bébé de ton ventre, bon bah quand t'as vécu ça, c'est bon, tu peux mourir tranquille. Non mais tu vois, il y a un truc bon, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce titre de Bliss, c'est que pour moi, malgré ce qui se passe avant et malgré ce qui se passera après, il y a un moment suspendu quand tu rencontres ton bébé, quand tes yeux se mettent dans les siens et où tu dis ok putain, d'accord. Ok, j'ai fabriqué un être humain. Ok, salut.
C'est moi.
On va faire équipe ensemble, tu vois. Et ça, c'est ce moment voilà, de béatitude qui vaut le coup d'être vécu.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'être maman qu'à l'époque de nos mamans?
Alors, à l'époque de mes parents, certainement. À l'époque de nos grands-parents, pas du tout. je pense que il y a eu une génération, la génération, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, après c'est peut-être une fausse idée, mais moi j'ai l'impression que la génération des baby boomers a été quand même assez bénie parce que parce que ils avaient beaucoup moins de problèmes de logement, de boulot, de maladies que nous n'avons aujourd'hui. Il y avait une vraie insouciance post 68ard et voilà, je pense que c'était vraiment une époque bénie. Voilà, je parle vraiment de des parents, tu vois, des années 50,
ouais,
tu vois, des personnes qui sont nées dans les années 50 et qui ont eu des enfants dans les années 80, quoi. Voilà, 70-80. Il y a un truc, ouais, de légèreté, d'insouciance, qui avait l'air formidable, honnêtement. J'aurais bien aimé vivre à cette époque, franchement, j'écoute mes parents, mes oncles et tantes, t'as quand même l'impression que c'était assez cool.
Ouais.
Oui, moi, même, honnêtement, ma mère, parfois, elle me dit, non, mais je sais pas comment tu fais, quoi. Alors que elle-même a toujours bossé, a toujours été dans l'action et tout, a géré mille choses en même temps. Mais je sais qu'elle hallucine en fait de ce que les femmes des années 2000, 2020 là, enfin des nouvelles mères
À quel niveau?
Moderne. Bah, de la manière dont on arrive à tout gérer, c'est-à-dire une vie parisienne, enfin une vie parisienne ou autre, hein, je dis Paris, ouais, ouais. Mais c'est juste que c'est tellement speed ici que voilà, c'est mon seul exemple, puisque ouais. C'est ce que je vis au quotidien. Mais c'est vrai que la vie parisienne est hyper stressante et que gérer une vie professionnelle et des enfants à Paris en ce moment, bah franchement, ça demande beaucoup de ressources à tous les points de vue, des ressources financières, des ressources intellectuelles, des ressources émotionnelles, des ressources énergiques, d'énergie. Donc ouais, je pense que franchement, on morfle beaucoup plus que nos parents, ouais, c'est certain.
Est-ce que tu as des défis aujourd'hui? Enfin, je suppose que oui.
Oui.
Mais est-ce que. Enfin,
heureusement.
Défi slash projet
ouais.
Dont tu peux parler, hein, bien entendu.
Bah, c'est ça le problème, c'est que je ne peux pas parler de tout. parce que, évidemment, des projets, il y en a plein. Non, ce que je peux dire, c'est que ce qui est génial avec Bliss Stories, c'est que cette aventure m'a fait rencontrer plein de gens formidables et de tous horizons. Et ça, c'est vraiment génial parce que, tu vois, il y a plein de gens qui me disent « Mais c'est pas relou de bosser tout seul chez soi maintenant alors qu'avant, t'étais dans une grosse boîte avec plein de gens, plein d'équipes. » Je dis « Mais en fait, je ne suis pas du tout toute seule. En fait, je n'ai pas du tout l'impression d'être toute seule. Et je ne le suis pas. Parce que tous les jours, j'ai des nouvelles personnes au téléphone, c'est des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des choses qui viennent même pas de moi, donnent des idées, en fait, à d'autres. Et où je me dis « Ah ouais, mais bien sûr, mais trop cool. Ok, ouais, on va faire ça. Vas-y, viens. » Et puis, bon, alors j'essaye de faire mon fil rouge, hein, disons que mon nouveau mantra, c'est vraiment de ne faire que ce que j'ai envie de faire avec les gens qui m'inspirent, avec mes contraintes et pas les contraintes des autres. Voilà, donc ça, c'est le luxe de la liberté. Mais n'empêche que comme je suis une acharnée de travail et que j'ai besoin de nouveaux objectifs à peu près... quotidiennement, bah oui, je me laisse embarquer dans plein de nouvelles choses. Donc oui, il va y avoir il y a des nouveaux projets de podcast, et puis il y a des déclinaisons de Bliss sur d'autres supports.
Génial.
Voilà.
Génial. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récent? Je pose toujours la question à mes invités, à savoir un coup de cœur. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une rencontre. Ça peut être, je sais pas, une expo. C'est plus de l'ordre de la recommandation, tu vois. Si t'as déjà eu ça, si t'en as eu un récemment. Je pense que t'as peut-être pas forcément le temps de lire beaucoup. On parlait de cette dessinatrice merveilleuse, mais après, je pense que, voilà. J'aime bien poser ce genre de questions.
Le problème, en fait, c'est que depuis que je ne fais que du Bliss toute la journée, c'est vrai que je ne lis plus, je ne vais plus voir d'expo, je ne vais plus voir de films, je regarde très peu de séries.
Non, mais c'est pour ça.
C'est horrible, en fait. Je m'en rends compte que je suis...
Parce que ton coup de cœur, c'est Bliss, tout simplement.
Ouais, non, mais non, ça, c'est quand même... Il y en a qui tourne en rond, en fait, qui est en mono-sujet. Non, c'est pas vrai. Non, j'arrive quand même heureusement à écouter d'autres podcasts, mais bizarrement, j'écoute les podcasts des copains et des copines régulièrement, mais mes découvertes et mes coups de cœur, en fait, souvent elles sont toujours américaines, quoi.
Et dans les podcasts français, t'écoutes quoi?
Moi, j'adore Entre nos lèvres. Je trouve que Céline et Margot, elles ont vraiment beaucoup de talent. J'écoute Mathieu de Génération Do It Yourself. J'écoute beaucoup France Culture, mais c'est pas des podcasts natifs. Mais c'est vrai que j'ai une passion pour les pieds sur terre.
Ouais, moi aussi, j'adore.
Et ça, bon, ils arrivent toujours à m'embarquer très loin.
Et dans les Américains?
Alors, dans les Américains, ma passion, c'est les enquêtes policières.
C'est vrai?
Ah ouais. Les enquêtes...
T'as un nom en tête de podcast là-dessus ou pas?
Ouais, en fait, policières. Les enquêtes, en fait. Il date un peu maintenant, mais il y a quelques mois, est sorti un podcast fantastique qui s'appelle The Dropout. Je sais pas si t'as entendu parler. Qui est... qui est le récit d'une escroquerie monumentale d'une grosse entrepreneuse américaine dans l'industrie pharmaceutique.
Mais oui, mais attends, c'est cette histoire incroyable dont on m'a parlé, une fille qui a essayé de... de retracer en fait les maladies. Enfin, c'est pas un truc avec le sang
si,
ou.
En fait, elle a fait croire qu'elle avait mis au point un dispositif en fait pour
détecter les maladies.
Bah, en fait, pour éviter, pour ne plus faire de prise de sang et pour ne faire que des prélèvements, tu vois, sur le bout du doigt avec juste une goutte de sang.
Elle s'appelle Elizabeth Holmes.
Voilà, exactement.
Et le truc, le scandale, c'est le nom de la boîte, je l'ai oublié, mais Theranos. Ouais.
Ouais.
Un truc incroyable à 9 milliards.
Voilà. Oh où la nana a réussi à convaincre
c'est marrant, on en a parlé il y a deux jours.
Des investisseurs.
Une levée de fonds à 9 milliards.
Ouais, voilà. Elle a dupé tout le monde.
Et aujourd'hui, elle est en taule.
Ouais, bah en fait, ce qui est dingue, c'est que ce podcast, il retrace
l'histoire de ça.
L'histoire et surtout l'enquête. C'est-à-dire que c'est une journaliste de ABC, je crois. ABC ou NBC, je sais jamais. Mais en tout cas, c'est une journaliste américaine très calée dans ces histoires-là qui creuse en fait et qui va à la rencontre de plein d'acteurs de cette magnifique incroyable. Escroquerie. Mmh. Donc des anciens collaborateurs, des mecs qui ont financé le truc, des gens, des anciens copains d'enfance, enfin des gens qui l'ont connu vraiment de très très près. Qui ont connu cette fille qui était à la fois un gourou, une manipulatrice, une fille à la fois très brillante, très charismatique. Et alors, mais moi, je me suis laissée mais complètement...
c'est intéressant, je vais l'écouter.
Mais embarquée dans cette histoire. Et franchement, ils sont hyper forts. Du coup, j'ai basculé sur un autre truc qui s'appelle Man in the Window, qui est carrément mais flippant. Mm-hmm. Donc, j'écoute... qui est un podcast du LA Times et qui est sur un serial killer atroce. Mais j'adore en fait ce genre d'histoire parce que à l'américaine, je sais pas, il y a un truc, t'as l'impression de regarder une série en fait.
Il transporte,
tu vois.
Ouais. C'est vrai.
Et puis t'as vraiment des témoignages très très variés. Alors c'est souvent par téléphone, tu vois, le son est un peu crade, mais tu t'en fous, t'as l'impression d'être dans
immergée.
Cette résidence, tu vois, dans cette banlieue pavillonnaire du fin fond de l'Iowa ou à Séville.
Ouais, non, mais c'est surtout
un serial killer était là. Oh, mon Dieu.
Mais c'est surtout, à mon avis, le modèle qui commence à émerger, qui vient des États-Unis, c'est le côté fictionné en podcast, en fait. C'est ça.
Alors, c'est vrai que les Français s'y mettent et tant mieux. Notamment, j'ai commencé à écouter là une création si belle qui s'appelle Le Grêlé, qui est une enquête avec la journaliste Patricia Touranchot qui retrace l'affaire de ce tueur en série qu'on a appelait le Grêlé et qui est je crois même le seul tueur en série qui n'ait jamais été arrêté. Donc le mec, il court toujours ou il est mort, on sait pas, mais bon. Mmh. Et c'est un peu sur le même principe et je trouve ça, je trouve ça passionnant, passionnant. Voilà, moi c'est ça mon kiff, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la maternité,
l'entrepreneuriat,
ça me fait
obligée,
du bien justement de sortir de ces sujets-là.
Ça permet de t'évader un peu.
Et ouais, exactement. Et puis j'aime toujours autant écouter l'anglais, donc aussi ça me fait du bien, voilà, d'écouter des choses en anglais aussi.
Je suis d'accord, moi ça me permet de voyager beaucoup.
Ouais.
Est-ce que t'as un coup de gueule à passer? Ça peut être sur plein de choses, hein. C'est un truc qui t'agace profondément. Un coup de gueule, voilà.
Non, en fait, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu parfois dans les coups de gueule. J'ai du mal à trouver cette légitimité-là. Mais c'est peut-être le syndrome de l'imposteur que j'ai encore un peu qui traîne, dont j'ai du mal à me débarrasser. Mais reviens me voir dans quelques mois.
Okay.
J'aurais peut-être, je me serais débarrassée de ce syndrome. Mais non, écoute, tout va bien.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce super échange, en tout cas.
Bah, merci à toi.
Très bonne chance pour la suite et
merci.
Belle route à toi.
Merci. Merci. À toi aussi.
Merci.
Ciao.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.